Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Bien le bonjour dans l'heure CV. Bon lundi. On est le 26 février d'une année bissextile. Moi, je pense à quelqu'un qui va fêter son anniversaire le 29 février prochain. Bien excité. C'est comme une vraie fête pour elle. Elle va pouvoir souligner ça pour vrai. Y en a-t-il d'autres à l'écoute des gens qui sont nés le 29 février? 418-971-1021. Mon nom est Pascal. Je suis avec vous jusqu'à 11h. Voilà pourquoi à l'heure CV, ben Pascal CV pour les intimes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était assez clément côté température, un genre d'hybride entre l'hiver et le printemps. Un peu de nuages, sinon pas mal de soleil. C'était vraiment le fun de vous rencontrer vendredi dernier du côté des remparts pour la soirée Boulevard avec le show des Trois Accords. Honnêtement, magnifique soirée avec vous. Je salue tous ceux qui avaient gagné en fait des billets dans notre section ou encore dans la loge. Ça a été le fun pour ceux que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé, là. Bien, de mettre un visage aussi sur ceux qui étaient là. 418-971-1021 aussi, si vous y étiez. Finalement, c'est le temps des salutations en ce lundi. À l'extérieur, en ce moment, c'est moins 2 degrés, somme toute assez confortable. Et ça va être le temps de profiter de l'extérieur aujourd'hui parce qu'il va y avoir un vaste système dépressionnaire là, cette semaine. Et on va avoir des températures anormalement douces, ce qui va faire qu'il va y avoir de la pluie. Puis une chute aussi des températures là, pendant la nuit. Ça, c'est bon, je pense, pour ceux qui entaillent, hein, pour les érablières. Là, on va avoir un bon printemps jusqu'à maintenant, si jamais ça continue comme ça. Mais c'est ça. Alors, 3 degrés comme maximum aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, c'est moins 11. Mardi, 7 degrés avec du soleil. Dans la nuit, c'est 5. Et là, à partir de mercredi, on a jusqu'à 10 degrés. De la pluie abondamment. Même chose pour le soir et la nuit. Et jeudi, bon, on tourne à moins 10 et à moins 20 le soir. C'est n'importe quoi, là. Honnêtement, la température est dure à suivre. Mais, comme la CAQ, finalement. La température est aussi dure à suivre que la CAQ. Sauf que il y aura justement ces changements de température qui vont affecter un peu nos sports hivernaux. Alors, si vous voulez en profiter, c'est aujourd'hui. Ah, les textos commencent à entrer, entre autres, pour les anniversaires du 29 février. Il y en a qui vont être fêtés. C'est une année bissextile, comme on disait. Dans les citations du jour, on en aura une, en fait, pour commencer l'émission. C'est un petit rituel qu'on se fait. C'est Karl Marx qui avait dit « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. » Et c'en est une que j'aime particulièrement parce que quand on parle d'actualité, de réflexion, de souvenirs, d'importance, justement, de notre histoire, de bien la comprendre, ça nous permet de ne pas répéter les mêmes choses en tant que société, que collectif. Et même chose pour nos erreurs personnelles. Hein? Quand on comprend d'où on vient, pourquoi on agit d'une manière, le fait d'avoir cette façon-là de réfléchir à notre histoire, ça peut être très personnel aussi, bien, fait en sorte qu'on ne va pas revivre les mêmes patterns, les mêmes choses. Je la trouve vraiment très bonne, cette citation-là. Je vous la redis. « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. » Dans un instant, on va aller rejoindre... J'ai goût de l'appeler notre correspondant maintenant parce qu'il était du côté du Salvador récemment, la semaine dernière, en fait. Et cette semaine, il est au Nicaragua. Il dit que ça brasse énormément. On va jaser un peu de ça avec lui. Mais d'abord et avant tout, on va jaser avec Frédéric Bérard, avocat et chroniqueur, sur ce qui se passe avec Justin Trudeau, avec l'argent qui est dépensé, en fait, pour la défense. On va aller démêler tout ça parce que c'est une nouvelle de dernière heure. Alors, Frédéric, on va aller le rejoindre au Nicaragua dans un instant. C'est l'adolescence de Fortune Cookie Club. Juste le temps d'aller se couler notre premier café. Bon début de travail. Bon lundi. Merci d'avoir choisi l'heure CV.
Avec Pascal CV.
Juste avant d'aller rejoindre notre chroniqueur, il y a beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. Entre autres, je ne sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle hier, mais Catherine Lamontagne, celle à qui on a jasé dans leur CV, au courant des derniers jours, y était avec sa gang, en fait, d'enquêteurs au bureau d'enquête du Journal de Québec. Félix Séguin, vous connaissez très, très bien, qui est dans le domaine depuis longtemps, et Éric Thibault. On parlait justement de cette guerre de stupéfiants dans la région de Québec et, bon, dans les nouveautés de ce qu'on a appris, en fait, suite à notre conversation avec Catherine, c'est les arrestations de deux lieutenants du Blood Family Mafia. On a eu une lettre, en fait, en fin de semaine, là, un courriel de la police de Québec pour nous annoncer ces arrestations-là. On a fragilisé, en fait, la gang de Dave Picturmel. Cet homme-là qui est en... Il est protégé du côté de l'Europe, en fait, il est en fuite pour s'assurer de rester en vie, parce qu'en ce moment, c'est drôle, on n'a jamais vu ça. Bien, c'est comique, je veux dire. Vous comprenez le terme, là. La police et les Hells Angels, ou du moins ceux qui sont engagés par les Hells Angels pour, en fait, éliminé Dave Picturmel. Sont dans une course contre la montre. Ce sera qui va mettre la main en premier sur Picturmel. C'est un peu ça qui se passe. Et ils ont eu une bonne entrevue à Tout le monde en parle, franchement, hier. On a appris, entre autres, pourquoi Dave a le surnom de Picturmel. Lors de sa fête de 18 ans du côté de Lévis, ce gars-là a poignardé deux personnes, ce qui lui a valu son nom, mais on n'a toujours pas le nom des autres participants dans cette guerre de stupéfiants. Tu sais, c'est drôle, des fois, on regarde ça de loin puis on se dit, bon, ça ne nous touche pas nécessairement, c'est une guerre entre eux, mais ça commence à polluer un peu l'atmosphère de la ville de Québec. Entre autres, quand on est obligé de faire, avec les forces policières, 18 arrestations en 3 jours, dont 17 qui sont directement liées au clan de Dave Picturmel. On savait que ça allait arriver. Ce qu'on a appris également, c'est que, bon, ça se fragilise, oui, par les arrestations, mais aussi parce que au sein du clan de Picturmel, c'est plutôt des criminels qui n'ont pas fait l'école, des criminels. Disons-le comme ça, c'est plus des gens qui ont besoin d'argent. Maria Mourani, vendredi dernier, ici à leur CV, nous l'expliquait. La motivation principale, c'est l'argent pour ces gens-là. C'est pas nécessairement le sentiment d'appartenance comme on voyait des fois dans différents clans criminalisés. C'est pas le besoin d'une famille, entre parenthèses. C'est vraiment l'argent. C'est ce qui les attire principalement. Et en ce moment, ils ont quand même peur pour leur vie malgré tout, parce que des fois, l'argent, ben, il y a une limite en fait à en être attiré. Mais en ce moment, quand on jase avec différents acteurs qui suivent tout ce qui se passe, en fait, dans la ville de Québec, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'ils commencent à avoir un petit peu peur de tout ce qui est fait et qui pourrait risquer, en fait, contre le clan de Turmel. Ce que je veux dire, c'est que les gens à l'intérieur commencent à jaser un peu ceux qui sont en dessous complètement de la pyramide. En fait, c'est ce que Félix Séguin affirmait hier à Tout le monde en parle. Mais le bureau d'enquête va plus loin aujourd'hui dans son article. Là, on dit qu'il y a deux lieutenants du jeune caïd, dont le rappeur James Célestin et Jean-François Dion, qui ont été arrêtés dans cette opération qu'on a appelée scandaleux et qui vise à lutter contre les dérives du crime organisé ici à Québec. Mais on suit ça de près parce qu'il y a encore des arrestations qui auraient probablement lieu là, dans les prochains jours. Hier, dimanche matin, en fait, le service de police de la Ville de Québec a confirmé aussi l'arrestation de 4 suspects, une femme, 3 hommes de 35 à 40 ans qui sont tous reliés au crime organisé. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que la torture est un des éléments principaux de tout ce qui se passe ici à Québec. On voit aussi que ça se passe à Limoilou, à Beauport, du côté de la Rive-Sud. C'est un peu partout sur le territoire et c'est ce qui inquiète, en fait. Mais si les lieutenants ont été épinglés, peut-être que ça va mener à une diminution des violences au courant des prochains jours. Mais c'est vraiment ce qu'on va surveiller. Puis aussi l'âge hein, des criminels. Le rappeur James Célestin, 39 ans, c'est 3 chefs d'accusation qui lui pèse en fait, qui pèse contre lui, là, notamment pour voie de fait grave, en blessant, mutilant, défigurant une victime qui aurait séquestré le 4 février dernier. Aussi, un enlèvement derrière tout ça. Et c'est des gens qui souhaitent finalement aller très, très loin dans leur quête, mais sous l'emprise de Dave Picturmel. Et lui, c'est comment on le décrit, là, une personne extrêmement violente. C'est vraiment un criminel violent qui n'a pas peur de grand-chose. Quoique, laissez-moi dire qu'il s'est enfui du côté de l'Europe, là, puis qu'on le recherche pour tout ça. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui voudrait aller très, très loin dans sa quête contre les Hells Angels et prendre possession, en fait, de tout ce qui est stupéfiant et vente de stupéfiants, ici à Québec, entre autres. Passons à un autre sujet, l'hôtel de ville de Lévis. On titre « Ambiance malsaine et climat de peur ». Il y a un jeune élu de l'opposition qui souhaite que les choses changent. Donc, après le climat de peur du côté de l'hôtel de ville de Québec, ce serait à l'hôtel de ville de Lévis qui aurait aussi une ambiance malsaine. C'est Alexandre Fallu qui a été élu il y a environ un an, là, il y a 24 ans. C'est sous la bannière de « Repensons Lévis ». Qu'il y a seulement 2 élus, là, et il s'attendait à se faire brasser en politique dans l'opposition, mais il n'avait pas anticipé qu'il y ait une ambiance lourde. C'est ce qu'il dit vivre à l'hôtel de ville. Alors, il y a vraiment des paradigmes à changer du côté de la politique, de ce qu'on voit entre les vieux de la veille et les jeunes qui entrent. Mais assurément que s'il y a des gestes violents ou encore des tempéraments difficilement contrôlables au sein des institutions politiques, il va falloir que ça change. Mais après Québec, ben, ça a ouvert une porte vers certaines communications et témoignages du côté de l'hôtel de ville de Lévis également. Formation de préposés à domicile, ça c'est vraiment intéressant. C'est Radio-Canada qui sort ça ce matin. Il y a plus de 4 500 demandes pour 1 000 bourses. 48 heures seulement pour pouvoir remplir toutes les places au Centre de formation professionnelle Fierbourg à Québec. Le téléphone sonnait jour après jour, malgré tout. C'est une formation qui est rémunérée de préposés au soutien à domicile. Et c'est victime de son succès. En 10 jours, plus de 4 500 personnes qui ont déposé une demande d'admission. Sauf que pour l'instant, le Québec offre 1 000 bourses, comme je vous disais. Nouvelle vague de bourses de 12 000 $ pour former 1 000 auxiliaires aux services de santé et services sociaux. Et c'est pour ça que tout le monde, en fait, s'est dépêché, je pense. 44 places disponibles au Centre de formation professionnelle ici à Fierbourg. Et c'est en un claquement de doigts qu'on a réussi à les combler. C'est quand même une excellente nouvelle dans un domaine, soit la santé puis un ministère, où on demande encore plus de main-d'œuvre, où on demande justement aux gens de venir travailler. Peut-être que cette formation-là et cette bourse-là fait en sorte qu'on a attiré des gens. Espérons juste, par contre, qu'ils restent au sein des rangs. C'est toujours un peu ce dont on parle quand on voit des bourses octroyées pour motiver, en fait, l'enseignement, puis les gens à venir étudier dans un domaine en particulier. On en parlait avec la construction récemment aussi, où ils n'ont pas d'heures à donner ensuite à la construction. Les jeunes étudiants qui se font donner une bourse, c'est vraiment s'ils le souhaitent ensuite qu'ils vont pouvoir continuer dans la construction, ce qui est un peu critiqué, là, parce que quand on se rappelle des bourses qui avaient été données aux préposés, aux bénéficiaires en temps de COVID, en temps de pandémie, il y avait une obligation de faire certaines heures de travail pour le gouvernement, pour le ministère de la Santé par la suite. Sinon, il y avait remboursement de ce qui avait été donné là, en termes de bourses. Tout le monde a son commentaire là-dessus, son mot à dire là-dessus, mais je sais que ça fait beaucoup réagir, mais on a encore certaines subventions, certaines bourses qui sont octroyées pour motiver les gens à aller travailler en santé. On va en avoir besoin, population vieillissante, des soins très importants à donner également, et on va surveiller tout ça à leur CV, assurément. Et on revient dans un instant avec Frédéric Bérard, qui est en direct du Nicaragua. Manquez pas ça.
Avec Pascal CV.
On est de retour dans l'heure CV à 10h20. On va aller rejoindre celui à qui on parle à chaque lundi. C'est un chroniqueur régulier de l'émission. Frédéric Bérard, qui est avocat, chroniqueur et maintenant, je dirais, globe-trotteur. Salut, Fred.
Salut!
Merci encore d'accepter l'invitation. Je sais que tu es à... c'est pas l'autre bout du monde, mais tu es quand même à quelques heures d'ici. Prenons un vol de 6h, 7h, puis on est rendu au Nicaragua. La semaine dernière, on te parlait en direct du Salvador. Tu fais des genres de reportages sur les droits humains ces temps-ci, en Amérique du Sud. Et là, pourquoi tu as traversé au Nicaragua, Fred?
Écoute, j'ai... premièrement, parce que j'aime beaucoup le soleil. Puis deuxièmement, écoute, ça brasse ici... autant qu'au Salvador, en fait, beaucoup plus, et pour des raisons différentes. Puis je me suis dit, écoute, il faut que j'aille voir ça le temps qu'elle est à côté, hein, parce que Salvador et Nicaragua, là, c'est un vol de 55 minutes à peu près. Et puis, c'est ça, je suis arrivé ici vendredi, et je te dirais que c'est un bordel assez épouvantable. Hein. Souvent, on ne réalise pas au Québec à quel point on a la chance de vivre dans une démocratie, dans une vraie démocratie. Elle n'est pas parfaite, là. On le voit bien, notamment avec ce qui se passe au municipal, mais reste que si tu compares avec ici, où les gens se font emprisonner pour un oui ou un non, où on a fermé une douzaine d'universités déjà dans les dernières années.
Pour quelle raison?
Parce qu'il y a des profs qui ont osé contester le régime. Écoute, 12 universités, c'est la moitié des universités du pays. On a mis un curé en prison qui est devenu un symbole national. Les manifs dans les rues se terminent en bain de sang. Les gens sont emprisonnés en claquant des doigts. Et tu as donné une idée, les sept opposants au président actuel lors de la dernière campagne présidentielle sont aujourd'hui en prison. Donc, ça donne un peu une idée. Hein. Puis les journalistes, je t'en parle pas, là, on est tous fichés, là, on est surveillés, notamment sur les médias sociaux.
Tu le sens, toi?
Ouais,
comment clairement. Ça s'est manifesté, en fait, de ton côté depuis que tu es arrivé?
Parce que je m'étais engagé un chauffeur puis un guide pour me promener un peu, pour avoir... Et je le voyais là, dans les messages, il y a beaucoup de propagande versus ce qu'on sait. Hein, si on regarde, par exemple, il y a une multitude de rapports là, de toutes sortes, là, anglais, français. Bon, c'est une évidence. Et ils essaient de contrôler le message... gouvernemental. J'essaie, par exemple, laisse-moi ton texto, je te réécris. Il me donne des faux numéros de téléphone, il me donne des faux comptes Facebook.
Ah ouais, hein?
Non. Je te dirais que je vais rester ici encore quelques jours. J'ai ramassé pas mal tout ce que je voulais. Là. J'ai peut-être une demi-heure, un petit peu plus de footage. Mais ben, je te dirais que je ne m'étirerai pas beaucoup plus que 3-4 jours encore, là, parce que je pense que ça commence à être dangereux
OK, pour toi aussi, alors, OK. Bon, ben, soit, comment dire, safe dans ce que tu vas faire pour les prochains jours, là. Fais attention à toi, Frédéric. On veut te garder lundi en chronique.
Ah, ben ça, c'est peut-être que de la prison, on peut faire des entrevues, je ne sais pas.
Ah, ça pourrait être intéressant. Tu pourrais nous parler des prisons de Caragua, comme le
Ah
journaliste qui avait fait des documentaires sur Netflix sur les pires prisons qui existent.
oui,
Mais là.
parfait.
Oui, bon, on change de sujet complètement. En fait, je veux te parler de Justin Trudeau parce que dans les
Oui.
dernières heures, en fait, c'est quasiment une nouvelle de dernières heures, là, on parle de lui à l'international, ici au Québec aussi, parce qu'il était de passage en Pologne et il a défendu les niveaux de dépenses en défense du Canada, ce qui est souvent critiqué comme pas assez, en fait, pour se défendre en termes de pays et plutôt dans tout ce qu'on donne à nos alliés. Là, il était en Pologne, il a défendu ces niveaux de défense-là, comme je vous disais, en défense, en défense de la défense, mais son homologue polonais, qui s'appelle Donald Tusk, lui a dit que le reste de l'Occident avait affaire face au danger très réel que représente désormais la Russie de Vladimir Poutine. Donc, lui, il a dit, nous, on dépense beaucoup, c'est un peu ce qu'on a compris, puis on est à l'affût. Mais son homologue polonais avait un peu, on dirait, des réticences quant à son discours, comme si on était naïf et pas assez engagé dans notre défense dans le pays face aux risques qui nous sont quotidiens, là. Est-ce que tu as bien compris cette communication-là, comme je semble avoir compris?
Oui, non, j'ai exactement la même, j'ai la même lecture que toi. Et rappelle-toi la chronique qu'on avait faite ensemble il y a une semaine ou deux, est-ce que je me souviens plus trop, peut-être un peu plus sur le danger que représente Poutine pour les démocraties occidentales, notamment quand Donald Trump a invité le Kremlin, donc Poutine, à envahir, à attaquer les membres de l'OTAN qui ne payaient pas leur cotisation.
Quelques
C'est
jours
quand même.
après, Donald Trump s'est prononcé sur le fait que Vladimir Poutine était dangereux. Donc là, peut-être qu'il a rectifié certaines choses puis s'est
Il
rendu
essaie
compte que.
de jouer là-dessus, mais j'ai pas vu le condamner fort fort pour l'assassinat de on sait qui. Mais reste que jamais on n'aurait pu penser, je reviens là-dessus rapidement parce que c'est important, c'est tout attaché ensemble. Jamais on n'aurait pu penser qu'un président américain invite la Russie à attaquer un membre de l'OTAN. Je veux dire, c'est complètement surréaliste et ça témoigne d'où on est rendu au final. Et c'est ça le cri du cœur qu'a lancé le premier ministre polonais à Trudeau, à mon sens, en disant, là, si l'OTAN ne se réveille pas, nous, on va se faire manger tout rond
Parce
par
que
la
eux sont
Russie.
plus à risque en étant en Europe, dans
Ben oui.
l'envahissement. Il y a des plus que des rumeurs, en fait. Il y a eu des menaces quant
Ah ben
à
oui.
cette envie pour Vladimir Poutine de s'attaquer aux pays de l'OTAN du côté de l'Europe, là.
C'est sûr, c'est sûr. Écoute, la Pologne et l'Ukraine, c'est limitrophe. C'est à côté un sur l'autre. Et là, pour ceux qui se posent la question, pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine et non pas la Pologne jusqu'à maintenant? C'est tout simple. Parce que si on attaque l'OTAN, l'article 5 fait en sorte que les autres pays doivent aller le défendre. Donc, l'Ukraine s'est dit, je vais commencer par l'Ukraine, nécessairement. Il y en a plein les bottes, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais s'il finit par gagner, on ne va pas s'arrêter là. Ça semble assez évident. Et c'est d'ailleurs ce que disait la Pologne à Trudeau, en disant là, préparez-vous, parce qu'on va se faire bouffer tout rond.
Qu'on va avoir
Or,
besoin de vous.
oui, exact. Or, petite nuance, c'est vrai que les budgets du Canada ne sont pas suffisants. En fait, c'est le 2 % qui est requis par l'OTAN. On est à 1,3. Donc, on n'est quand même pas si loin que ça, tu vas me dire. Sauf que le 0,7 de différence, là, c'est de l'argent anti-pépère, là. Tu sais, c'est des grosses dépenses, tout ça, là. Ça, c'est un. L'autre affaire, nuance de la nuance, c'est que le Canada a fait sa part et continue de le faire pour soutenir l'Ukraine. Ça, c'est évident, là, tout le monde le reconnaît, incluant la Pologne, incluant Zelensky. Il y en a d'autres qui commencent, par exemple, à trouver que c'est cher, à trouver que ça prend du temps, à trouver que là, bof, on a peut-être d'autres priorités. Et surtout, puis moi, c'est ça ma crainte. Ça, il va falloir garder ça à l'esprit. Il y a un paquet de pays européens qui s'en vont en élection en 2024. Ils en ont une sacrée tonne. Il y a même des élections européennes au Parlement européen. Or, là-dedans, il y a pas mal de chums de Poutine. Par exemple, aux Pays-Bas. Par exemple, qui d'ailleurs, le gars d'extrême droite vient d'être élu, Wilders. T'as la France et Marine Le Pen qui caracolent dans les sondages. L'élection, elle ramasserait tout. Ce qui fait en sorte que là, et Mélanie en Italie, ce qui fait en sorte que là, Poutine a de plus en plus d'amis, de moins en moins d'ennemis. Donc, ces gens-là vont être tentés de cesser leur effort à l'OTAN de cesser leurs efforts face à Poutine, par exemple en rapport à l'Ukraine, et ce qui risque de faire en sorte que la position de Poutine va se renforcer d'OTAN, et ça, sans mauvais jeu de mots, puis là, ça commence à être drôlement dangereux.
La question importante dans tout ça, Frédéric, c'est ça apporte quoi, par exemple, aux pays européens de se rapprocher de Vladimir Poutine si jamais élection il y a d'une personne qui pourrait être amie, en fait, avec Vladimir Poutine, ou encore qui est, bon, amie, on s'entend, on parle de politique ici, là, plutôt alliée politique, là. Ça leur rapporte quoi? C'est un sentiment de sécurité pour pas se faire envahir? Qu'est-ce que ça leur... Parce qu'à un moment donné, tout le monde veut son dû, là.
Ben oui. Ben, ta question est ultra méga pertinente, puis je vais répondre avec quelque chose de très, très concret. Allez lire le reportage choc du Washington Post qui est sorti au début janvier, si je ne fais pas erreur, qui dit ceci. Prends juste cet exemple-là. Marine Le Pen et son parti sont financés directement par Poutine. Écoute, c'est le Washington Post qui le dit, là, c'est pas une feuille de chou, là, c'est probablement un des journaux, c'est assurément un des journaux les plus sérieux et crédibles sur la planète. Il y a un pays, Le Pen ne l'a pas démenti d'ailleurs, Poutine finance l'extrême droite française. Pourquoi? Parce qu'il souhaite, je le répète, déstabiliser les démocraties occidentales, avoir des alliés un peu partout. Et là, une fois que tu as une alliée, la France, c'est quand même pas un petit pays non plus, ça fait partie, ça fait partie du G7, comme on sait. Une fois que tu as la France, eh bien là, ça commence à être facile parce que tu te rapproches. Je vais te prendre un autre exemple. 2016, l'influence, l'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump contre Hillary Clinton, c'est connu, c'est documenté par des rapports, notamment du Congrès américain, avec du cash, avec des appels robots. Là, il y a un paquet de faux comptes sur Twitter ou sur X qui défendent la position de la Russie, qui attaquent systématiquement tout ce qui s'appelle, comment je te dirais, autre chose que le pro-poutinisme. Ça fait en sorte que là, de plus en plus, tu as un réseau. Et là, ta question, pourquoi je disais qu'elle était pertinente, c'est un, tu mets le doigt sur le bobo, puis deux, le sous-entendu de ta question, c'est toi, si tu es Marine Le Pen, bien là, tu as un autre allié qui s'appelle Poutine, ce qui est quand même pas inintéressant, puis tu es redevable à ce gars-là parce que c'est lui qui va t'avoir fait élire en bonne partie. Fait qu'imagine
mais c'est
si
là où
Trump...
je comprends pas la position de pouvoir qu'on lui donne à Vladimir Poutine, connaissant l'individu, mis à part d'être élu, tu sais, est-ce que c'est une envie finalement qui est plus narcissique et plutôt personnelle?
Ben, c'est là, tu as une approche de psychologie qui est excellente. Moi, je pense que ça fait partie du phénomène, mais je te répondrais ceci. Et là, je ne veux pas être trop alarmiste, mais là, les faits sont là, là. Alors, il va falloir y faire face, Le monde est en train de changer, là. C'est ça, la réalité. Toute la géopolitique est en train de se métamorphoser. Les démocraties sont à risque. Par preuve, tu as un gars qui s'appelle Trump, qui risque fort d'être élu, qui invite la Russie à attaquer l'OTAN. Je me répète, on n'a jamais entendu ça avant. En d'autres termes, là, on parle de politique un peu comme on analyse un match de hockey ou de football. C'est bien sympathique. Mais l'heure est grave. Ouais, c'est ça qui est en train de se tramer. C'est pas des farces.
Mais Marine Le Pen, autre que se faire financer, par exemple, par un Vladimir Poutine, possiblement, de ce qu'on comprend, ce qu'on a lu au Washington Post, elle, ça lui donne quoi ensuite? Parce qu'elle va avoir toujours le sentiment de lui devoir quelque chose. Elle va avoir les mains liées malgré tout, même si elle est élue, puis que finalement, elle est celle qui gérera la France. J'ai de la misère à comprendre, autre que cette approche qui est plus personnelle, en quoi ça lui est bénéfique. Parce que Vladimir Poutine pourra lui dire et lui faire sentir « Dance for me, my puppets » après, là. T'sais, mais pas vrai.
J'aime la métaphore. Enfin, on ne sait même plus si c'est une métaphore rendue là, mais... Moi, ce que je répondrais à ça, c'est que Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'elle essaie de se faire élire. Hein? Puis ça n'a jamais fonctionné, puis ça n'a jamais passé tant proche. Elle s'est ramassée une fois au deuxième tour, puis that's it. Là, tout à coup, ça marche bien. Je te le dis, l'influence russe dans les élections occidentales, c'est ultra puissant. Là. Si tu n'as pas les Russes en 2016, Trump ne rentre pas, fort probablement. Alors là, écoute, moi, je ne suis pas dans le cercle du Rassemblement national, évidemment. Mais je suis assez convaincu que ce deal-là qu'ils ont fait, ben c'est pas compliqué. Fais-moi élire, puis par la force des choses, par la suite, ben je te serai loyal. Et n'oublions pas ceci non plus. Marine Le Pen, c'est une personnalité d'extrême droite, à la Éric Zemmour, c'est pareil. Ce qui fait que, pour eux, Poutine, c'est pas l'ennemi du peuple numéro un. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un de sympathique, en quelque sorte. Tu as vu, d'ailleurs, plusieurs photos de Le Pen avec Poutine. Jamais elle ne le critique. Donc, idéologiquement parlant, évidemment, c'est pas pareil à 100% parce que Poutine, c'est un moyen moineau, mais il y a quand même une espèce de communauté d'esprit, là, d'un point de vue idéologique, là. Marine Le Pen, la démocratie, ça y plaît pas plus que ça, là. Ce qui fait que quand tu as quelqu'un comme ça qui est prêt à t'aider avec le fric, avec l'influence sur les réseaux sociaux, oh, des espions et tout ça. Puis là, pour ceux qui pensent que j'en invente, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, allez voir le reportage du Washington Post, allez voir, c'est à couper le souffle. Bien, très clairement que tu as, disons, une entente très, très gagnante à plusieurs niveaux.
Si on revient à Justin Trudeau qui est en Pologne, qui s'est fait dire, il va falloir que tu mettes plus d'argent, mon cher Justin, pour nous aider puis faire ta juste part dans le temps et assurément aussi mettre de l'argent pour en fait protéger ton propre pays qui est le Canada. Il a dit, on reconnaît à quel point le monde est devenu plus dangereux et le Canada sera là avec l'équipement et les forces armées nécessaires pour faire notre part. En fait, est-ce que tu as l'impression que Justin Trudeau se sent critiqué autant par la communauté canadienne, soit ses électeurs, que ceux du côté d'outre-mer, parce que justement, l'argent fait foi de tout, là. C'est quand même important. Puis on commence justement à critiquer l'envoi de sommes faramineuses et ou d'équipements du côté de l'Europe en disant, ben, de toute manière, ça donne rien. On voit pas d'impact absolument positif et, ou encore de reprise de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on dilapide notre argent comme ça puis qu'on la met pas ici à l'intérieur même du pays? Justin Trudeau se retrouve entre l'arbre et l'écorce. Pas une position qui est facile, peu importe si on est, bon, peu importe nos allégeances politiques, là. Mais il y a quand même cette critique-là qui est des pays européens de dire protégez-vous, vous aussi, et aidez-nous. Mais si, par exemple, on aide des pays qui peut-être se font envahir dans le futur et qu'on met des sommes faramineuses dans cette aide-là, qu'il y a un certain échec en arrière de ça, est-ce qu'ils seront capables de nous aider par la bande? Est-ce que c'est ça qui freine, en fait, Justin Trudeau à aller plus loin?
Ben écoute, pour le premier volet de ta question, hein, quand tu dis que Trudeau est critiqué de toutes parts, tu as tout à fait raison. Là, je suis à peu près certain qu'il se fait critiquer même par son livreur d'Uber Eats, là, c'est peu importe ce qu'il fait dans la vie, c'est toujours tout croche. Écoute, regarde les derniers sondages, c'est épouvantable, là. Il va se faire rincer de chez rincer. Le discours passe plus, il est plus crédible, notamment à l'échelle internationale. Mais au-delà de la personnalité de Justin Trudeau, si on regarde juste le volet purement géopolitique de l'affaire pour répondre au deuxième volet de ta question, ben c'est pas sorcier là. Si l'OTAN est incapable de freiner la Russie, qui risque de débuter par la Pologne après l'Ukraine, ben après là, c'est foutu là. Parce que s'il y a une partie de l'Europe qui s'effondre, il y a une partie de l'Europe qui ne s'effondrera pas, celle qui prêtera allégeance à Poutine, possiblement, dont Le Pen et compagnie. Mais pour le reste, si ça s'effondre, c'est pas une bonne nouvelle, ni pour la démocratie, ni pour le Canada, hein. Il y a une question de sécurité nationale. On verra jusqu'où il est prêt à aller. Mais regarde, l'attaque contre l'Ukraine, je veux dire, c'est épouvantable. C'est en violation de tout ce qui existe en droit international. Il n'y a aucune justification à ça. Alors, tu sais, ce gars-là, une fois qu'il va avoir bouffé l'Ukraine, ben, il est capable de bouffer la Pologne. Puis, s'il est capable de bouffer la Pologne, il s'arrête où? J'en ai franchement aucune idée. Mais d'y aller avec une conception purement canadienne, disant, on garde notre fric ici, c'est correct, mais je pense que ce serait une erreur au final.
Oui, puis peut-être qu'on pourrait se mettre les deux pieds dans les plats pour la suite des choses aussi, parce qu'on aurait perdu nos alliés, en fait, par pouvoir perdu peut-être aussi les territoires qui seraient, en fait, défavorisés autant financièrement que politiquement ou socialement. Ouais, c'est important quand même tout ce qui se passe là-dedans, puis on pense parfois que c'est très, très loin de nous, mais au final, c'est dans notre cour. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, d'avoir été avec nous en ce lundi. 26 février d'une année bissextile, on en parle. Parce qu'il y a des auditeurs qui vont fêter leur fête pour la première fois en 4 ans, le 29 prochain.
Ah oui.
Oui.
Ah ben là-bas, ben bonne fête à vous à l'avance.
Hey, fais attention à toi du côté du Nicaragua. On sait que ça brasse pas mal. On te veut en santé avec tous tes membres de retour au Québec bientôt.
Salut.
Salut. Frédéric Bérard, qui est avocat, auteur, chroniqueur ici dans l'heure CV, vous pouvez le suivre sur ses différentes plateformes. Toujours très intéressant d'avoir son point de vue. Un gars qui a étudié le droit constitutionnel, l'enseigné aussi, l'enseigne toujours. Donc, quand on parle de tout ce qui se passe en politique ou encore dans des enjeux comme tels, c'est vraiment sa tasse de thé. Vous avez des questions, vous voulez me rejoindre, c'est le 418-971-1021. Vous pouvez nous écouter aussi partout dans le monde, même si vous êtes du côté de l'Europe, avec l'application BLVD et assurément sur tout ce qui est site web et Twitch de ce monde. On revient dans un instant, c'est Bob Bissonnette et Chantal Maccabée à Boulevard 102.1.
Leur CV avec Pascal CV.
Ça brasse tellement dans l'actualité aujourd'hui. J'ai pas le choix de refaire un petit tour des nouvelles avec vous. Entre autres, jaser de violence conjugale, il y a un autre individu qui a réussi à se débarrasser de son bracelet anti-rapprochement. C'est spécial quand même parce que récemment, on en jasait dans tout ce qui était, en fait, rapporté par rapport au fait qu'il y avait de la prison à domicile avec sursis qui était donnée comme sentence à plusieurs criminels en matière d'agression sexuelle dans la dernière année. Puis même, il y a eu une explosion, en fait, de peine avec sursis. Soit tu es dans la maison, tu es surveillé, mais malgré tout, tu as certaines sorties. Le hic est que on parlait des bracelets anti-rapprochement en disant bien, peut-être que ce serait la solution aussi d'ajouter tout ça à ceux qui font de la prison avec sursis à la maison pour s'assurer qu'ils ne vont pas s'approcher de leur victime et ou que leur victime ne soit pas stressée de se faire approcher parce que le bracelet sonnerait puis il y aurait quand même un signalement qui serait fait du côté de la centrale de police. Mais là, très intéressant et déplorable de lire que en matière de bracelets anti-rapprochement. Il y a eu 5 incidents depuis l'implantation du système qui nous amènent à constater qu'il y a une façon très facile, entre parenthèses, d'enlever son bracelet anti-rapprochement. Il y a un autre homme de la Montérégie qui a réussi à se débarrasser de son bracelet. Il avait été imposé, bien sûr, dans un dossier de violence conjugale. Et là, le 15 janvier dernier, Luc Bouchard a fait preuve de persévérance pour s'en débarrasser. Là, ça pourrait être revu en cours quand même. C'est un dispositif que je vous rappelle qui est de géolocalisation qui est à la cheville. Et le bracelet, bon, on ne va pas dévoiler comment nécessairement il a été enlevé pour des raisons de sécurité, mais il a réussi, avec un produit en vente libre, à s'en débarrasser du dit bracelet. Depuis le déploiement complet là, de ce programme de bracelet anti-rapprochement, ça c'était en septembre 2023, c'est pas si longtemps, il y a eu 3 événements isolés qui sont survenus. Donc, on est-tu en train de passer le mot sur comment se débarrasser de ces bracelets-là? Peut-être, mais chose certaine, là, il y a un des cas qui concernait l'individu dont je viens de vous parler puis qui a coupé son dispositif, qui a été capable et donc de vaquer à ses occupations. On dit que, bon, c'est très alarmant parce qu'on avait l'impression d'être en sécurité avec ce genre de dispositif-là, mais qu'on soit capable facilement, entre parenthèses, avec des recherches, avec des achats, de s'en débarrasser, bien, c'est extrêmement préoccupant. Il y a même une femme qui a vraisemblablement pas été protégée par l'imposition d'un bracelet anti-rapprochement sur son ex parce qu'elle a continué à avoir confiance en le système, puis finalement, bien, elle a su que son agresseur s'était débarrassé de son bracelet, puis elle est venue vraiment paniquer. Puis comment tu prouves ça? T'sais, je comprends que c'est plus sur la personne, mais avant que tu t'en rendes compte que c'est plus sur la personne et que cette personne-là ne va certainement pas le dire à son entourage, ça peut prendre du temps et peut-être qu'il y a eu harcèlement en arrière de ça, qu'il y a eu des déplacements proches des victimes et autres. Fait que c'est fort préoccupant. Autre chose qui est sortie dans l'actualité au courant des dernières heures, c'est la ministre de l'Emploi et du gouvernement, Legault bien sûr, là, Catherine Champagne-Jourdain, qui a lancé un projet pilote. Ça, c'est fait avec le Conseil du patronat du Québec. C'est pour rattraper l'Ontario sur un sujet très épineux et important en société en ce moment. C'est pour garder les travailleurs de 60 à 69 ans sur le marché du travail. Donc, on était très, très, très heureux ce matin d'annoncer un investissement de près de 1 million de dollars, projet qui va permettre de mieux outiller, on dit, les PME, parce qu'il va avoir un accompagnement personnalisé qui va favoriser l'embauche de Québécoises et de Québécois de plus de 60 ans au sein de l'organisation. On va essayer de générer des emplois supplémentaires ou encore une envie d'employer ces gens-là. En gros, les entreprises vont pouvoir avoir un accompagnement personnalisé, gratuit, de 35 heures pour aider dans leur recherche de main-d'œuvre. Il y aura la construction, la fabrication qui sont concernées, le commerce de détail, les services d'hôtellerie et la restauration. C'est 175 000 postes vacants au Québec qui nécessitent en fait de trouver des gens pour faire en fait partie des troupes des 60 ans à 69 ans dans le marché du travail. Puis, il y a un bon taux d'emploi du côté de l'Ontario, puis on essaie d'aller rattraper ça, parce qu'on dit qu'il y a 42 000 personnes de plus sur le marché du travail qui ont passé 60 ans. Puis souvent, c'est des gens, en fait, qui postulent, mais qui ne se font pas prendre pour diverses raisons. Puis aussi, il y a des gens qui ne postulent pas parce que côté financier, bien, c'est pas avantageux pour eux. Puis avec tout ce qui est impôts, ils se font enlever une bonne partie de leur salaire, vu justement ce qu'ils reçoivent par mois, en fait, pour les aider dans leurs vieux jours. Vieux jours, on s'entend 60-69 ans, c'est plus vieux pantoute. Mais on parlait de ça beaucoup en pandémie, puis avant la pandémie, de cette pénurie de main-d'œuvre, puis des gens qu'on ne favorisait pas sur le marché du travail. Peut-être qu'on pourrait aller voir aussi dans le domaine fiscal qu'est-ce qu'on peut leur donner comme assouplissement. Et je termine avec la chronique de notre collègue collaboratrice Valérie Gaudreau au Soleil aujourd'hui, qui revient sur tous ces climats de tension dans les conseils municipaux et dans les hôtels de ville ici dans la grande région de Québec, parce que oui, on en a parlé en masse pour l'hôtel de ville de Québec, mais en fin de semaine, on apprenait aussi des témoignages pour l'hôtel de ville de Lévis. Et elle est tannée qu'on ramène Régis Labeaume dans l'arène de ses façons de gérer des rififis à l'intérieur même des murs. Très intéressant de la lire, elle qui a couvert le municipal pendant de nombreuses années, qui continue quand même, mais elle était vraiment sur le plancher des vaches. Et une de ses phrases, c'est « Dieu sait que pendant 14 ans, la tête de la Ville de Québec, Régis Labeaume et son puissant chef de cabinet, Louis Côté, ont fait régner l'ordre dans leurs troupes largement majoritaires au Conseil. Pas de doute là-dessus. Mais considérer M. Labeaume comme le grand discipliné, elle n'est pas d'accord du tout avec ça. Et c'est vrai quand même que dans des séances de conseil de ville, période de questions et autres, parfois ça volait bas pour les avoir couverts, moi aussi. Mais vraiment, Valérie Gaudreau est très pertinente dans sa chronique. Aujourd'hui, vous pouvez la lire dans Le Soleil. La folie en 4, 8-2 à Boulevard 102.1.
Leur CV avec Pascal CV.
Ça fait toujours jaser ce sujet-là, hein? L'emploi après 60 ans. Allez-vous travailler encore longtemps, vous? Est-ce que vous avez évalué le nombre d'années qui vous restait à travailler avant de prendre votre retraite? Est-ce que vous voulez être ce genre de travailleur qui, à temps partiel, s'en va donner un petit coup de main dans une shop XYZ? Moi, j'avais un collègue dans les médias qui rêve, en fait, de sa retraite pour aller travailler dans un IKEA de ce monde, un Canadian Tire, une quincaillerie, en fait, peu importe où. Pour lui, tout ce qui était manuel, ça l'a fasciné, puis il a travaillé avec son intellect toute sa vie. Fait qu'il avait hâte de tomber à la retraite, à peu près hâte, de tomber à la retraite pour aller travailler ailleurs, même s'il est passionné du monde des médias. Mais le faire à sa guise, puis à temps partiel, sauf que ce qui le dérangeait beaucoup, c'est le niveau fiscal, en fait, les désavantages de fiscalité reliés à tout ça. Quelqu'un qui dit « Mes parents ont 64, 65 ans, des petits vieux pour moi. Peut-être faudrait les aider justement pour ne plus payer d'impôts si jamais ils retournent au travail pour se désennuyer. C'est bon pour le cognitif aussi, puis c'est bon pour la société. Il y a tellement d'avantages, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas planché carrément là-dessus depuis maintenant plusieurs années. Quelqu'un qui dit « Moi, il me reste 35 ans avant ma retraite. » Ben, t'es pas sorti du bois, mais quand t'aimes ta job. Et c'est le cas de nos collègues ici à Boulevard 101 qui s'amène pour Marceau le midi. Restez là dans un instant. Yannick et Tom Gauthier se joignent à moi pour vous accompagner durant l'heure du lunch. Aujourd'hui, Jeff Fortin sera là, bien sûr, pour parler un peu de sport. Jean-François Gagné aussi pour les délais d'ambulance va venir en studio. Ça va être vraiment une belle conversation importante, en fait, à avoir ici. Peut-être que ça ne vous inquiète pas au quotidien, mais le jour où ça a à vous arriver, que vous avez à appeler une ambulance, est-ce qu'il y en a sur votre territoire? Est-ce qu'on va être capable de vous desservir comme il se doit? Et même pour vos proches, vos parents aussi. Alors, soyez là dans Marceau le midi et on va revenir, c'est sûr, sur la guerre des motards qui fait rage ici dans la capitale nationale. Hier, très intéressant encore une fois comme entrevue qu'on a eue du côté de Tout le monde en parle. Puis ça nous concerne et c'est totalement différent que ce qui se passe à Montréal. C'est là où c'est fascinant. Merci d'avoir été dans l'heure CV. Je vous souhaite une belle journée sous le moins 1 degré actuellement à Québec. Ça peut monter jusqu'à 3 degrés, tout dépendant vous êtes où, averse de neige ou de pluie. Et demain mardi, c'est du soleil jusqu'à 7 degrés. Et on revient. Pas grand-chose en attendant. D'or bleu. Puis, restez sur Twitch, là. C'est juste, on le ferme, puis on le remet. Puis vous allez pouvoir continuer de regarder l'émission avec les caméras dans Marceau le midi. Or bleu.